Hashtag Audemag, la chronique. Pour en savoir plus sur le dossier du magazine Audemag.
Vous êtes déjà plus de 18 000 à avoir signé le formulaire de soutien à la candidature des citadelles du vertige au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir ou de redécouvrir l'une de ces bâtisses, le château de Quiribus. Alors, quelle est son histoire ? Elisabeth, guide conférencière, nous la raconte.
Le contexte de la construction de Quiribus se situe en 2020. C'est le testament de Bernard Taillefer qui est comte de Bessalou. Le Bessalou, c'est un comté qui est très très grand. Le Canigou en est le saint. Et ces châteaux sont construits dans le contexte de la féodalisation. C'est-à-dire que les petits seigneurs prennent le pouvoir en quelque sorte et ils protègent leur territoire. Là, en l'occurrence, c'est le comte de Bessalou qui est quand même un comte très important. Par la suite, le comté de Bessalou passe entre les mains du comte de Barcelone et le comte de Barcelone devient roi d'Aragon. Donc, si vous voulez, jusqu'en 1255, le château de Quiribus appartient à l'Aragon et il surveille le nord. Pendant la croisade contre les Albigeois qui démarre en 1209, le château de Quiribus est un château qui résiste. C'est celui qui résiste le plus longtemps puisque le château de Quiribus est le dernier à tomber aux mains des croisés français. Quiribus tombe en 1255. Le chef de croisade à ce moment-là est Saint-Loup. Donc à partir de 1255, Quiribus appartient à la France et cette fois-ci il surveille le sud puisque la frontière qui est fixée en 1258 au traité de Corbeil, elle est toute proche de Quiribus. De Quiribus, on voit les Catalans sur leur territoire. Et donc, Quiribus fait partie du système défensif français, les cinq fils de Carcassonne. Quiribus, Aguilar, Peyrepertus, puis Lorrain et Terre. Ces châteaux sont utilisés pendant quatre siècles de combats, puisque cette première frontière n'est jamais respectée. La paix arrive finalement en 1659 avec le traité des Pyrénées, quand la frontière est repoussée sur les Pyrénées. Tous ces châteaux perdent alors de leur importance stratégique et ils sont abandonnés petit à petit. Donc, pour revenir à la période de la croisade, Quiribus est sous le contrôle du vicomte des Fenouillettes. Ce vicomte des Fenouillettes, dans les années 1240, il confie la garde de ses châteaux, la mise en défense de ses châteaux, donc il n'y a plus Lorrains, il y a Quiribus, à Chabert de Barbera. Chabert de Barbera, c'est un personnage qu'on aime beaucoup, nous, ici. Hein. C'est quelqu'un qui a été adoubé chevalier juste au début de la croisade, qui s'est battu toute sa vie contre les croisés. Quand ça s'est calmé ici en Occitanie, il est parti aider son suzerain, le roi d'Aragon, à faire la reconquête contre les Espagnols et il se couvre de gloire. Quand il revient, le vicomte des Fenouillettes lui demande de mettre ses châteaux en défense. Et de 1240 à 1255, Quiribus résiste. Peyrepertus, qui est juste à vue de Quiribus, est pris en 1240 par les croisés. Et Chabert de Barbera, donc, résiste. Et finalement, quand le château tombe en 1255, c'est une trahison. Chabert de Barbera n'est pas là. Alors, il y a bien un siège qui est mis en place d'une quinzaine de jours. Mais Chabert de Barbera, Olivier de Termes, lui a donné rendez-vous à côté de Carcassonne, comme c'est un ancien compagnon d'armes, Chabert de Barbera y va. Et il est fait prisonnier. Et donc, on vient annoncer aux chevaliers qui tiennent cette dernière résistance, c'est le seul château qui résiste encore, que leur chef a été fait prisonnier. Donc, ils se rendent. Et le château tombe aux mains des croisés français.
C'est un château qui a été abandonné. On sait qu'une garnison est restée jusqu'à la Révolution française officiellement. Des châteaux qui n'ont jamais eu d'autre fonction que leur rôle défensif. La restauration, elle, est récente. Enfin, récente, ça date d'il y a presque un siècle.
Alors, à partir des années 50, 1950.
Et donc, pourquoi cette volonté de classer ces châteaux aux monuments historiques et, par conséquent, de les restaurer et de les mettre en lumière?
Quand on approche, on voit ces forteresses sur les rochers. C'est vraiment très, très impressionnant. Et en plus, Quiribus est un des plus impressionnants, à mon sens, parce qu'il est vraiment posé sur un doigt de rocher, quoi. Il sort de la montagne. Donc, ce serait dommage de perdre des châteaux pareils. En plus, il marque un moment important de l'histoire. Maintenant, c'est vrai qu'en plus, c'est toute une fortification qui a été reconstruite par le roi de France à la fin du XIIIe siècle, par Saint-Louis. toute cette fortification, tous ces cinq fils de Carcassonne, c'est vraiment la même manière de bâtir. C'est vraiment le style de construction de château des rois de France. C'est vraiment un ensemble qui est cohérent pour une défense de frontières avec le même style architectural et probablement les mêmes équipes qui travaillent sur tous les châteaux.
Alors, au-delà de la bâtisse extérieure, le château de Quéribus, il a réussi à garder en bon état, on peut le dire, des éléments qui sont liés à la vie quotidienne. Qu'est-ce que les visiteurs peuvent y découvrir?
Alors, on peut trouver des salles de stockage, des salles de stockage pour la nourriture, pour l'armement. On peut y voir des citernes aussi, et la salle du pilier. Ce qui est le plus surprenant quand on arrive au château de Quéribus, c'est probablement la salle où était logé le chef de la garnison, celui qui commandait la garnison. C'est une salle gothique, avec un pilier central et quatre croisées d'ogives et de très belles fenêtres à menu. Donc c'est vraiment très impressionnant, une salle pareille sur une citadelle du vertige, dans une citadelle du vertige.
Cette candidature suit son cours et le projet est actuellement dans une phase d'élaboration en concertation avec les riverains, les élus locaux et les spécialistes. Prochain rendez-vous mi-2022 pour l'achèvement de cette candidature audo-ariégeoise.
Hashtag Audemag, la chronique. À retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Linguedoc Narbounot, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.